Eh bien, on fait des hypothèses extrêmement simples et qu'il est très facile de qualifier de simplistes. Il faut que les agents économiques, qu'il s'agisse des agents individuels ou des agents collectifs, comme les entreprises, se comportent de manière prévisible. Bon, sinon, on ne peut pas faire d'économie. Si les agents ne se comportent pas de manière prévisible, on ne peut pas réfléchir à la manière dont, justement, leurs comportements se combinent, sont coordonnés plus ou moins bien par les marchés. Donc, il faut qu'il soit prévisible, il vaut mieux qu'il soit simple, parce que sinon les modèles deviennent très compliqués. Alors, on prend généralement des agents qui maximisent quelque chose. Alors, si c'est des entreprises, elles vont maximiser leurs profits. Si ce sont des consommateurs qui ont à faire des choix de consommation avec un certain budget, ils vont maximiser quelque chose d'assez insaisissable et non mesurable directement, qui est leur utilité ou leur satisfaction. Voilà. Donc, c'est ça qui fait dire que l'Homo economicus est un pur robot complètement irréel, non réaliste. Mais en vérité, on a absolument besoin, dans toute démarche scientifique, de simplifier. Alors, d'une part, on peut modéliser des comportements un peu plus compliqués que la simple maximisation. On peut imaginer, par exemple, des comportements qui sont des comportements de maximisation, mais sous forte incertitude. Où surgissent par conséquent des routines. On peut faire des choses beaucoup plus complexes que simplement l'homo economicus optimisateur ou maximisateur, mais c'est plus complexe à modéliser. Et puis, naturellement, on peut aussi complexifier un peu l'approche de la coordination, qui est l'autre grand type d'hypothèse que fait une théorie économique. Une théorie économique fait des hypothèses sur le comportement des acteurs, sur la manière dont ces acteurs sont coordonnés entre eux, par des marchés, mais aussi par des structures hiérarchiques, et enfin sur le rôle des institutions sur tout ça. Ça, c'est le cadre général d'un modèle économique. Je pense que cette question, elle est difficile aujourd'hui de ne pas répondre Keynes, mais pour être juste, il faut y associer d'autres noms. En fait, il y a eu une rupture dans le paradigme néoclassique qui s'était mis en place à la fin du 19e siècle, qui a eu lieu entre deux guerres et qui consiste en deux choses. Premièrement, la prise en compte des imperfections de marché. Donc, Keynes nous dit que le marché du travail, le marché des biens et les marchés financiers sont imparfaits, et que donc on n'est jamais à l'équilibre, et que se pose donc le problème de réguler l'équilibre de court terme. Mais Keynes aussi met l'accent sur les anticipations, le rôle auto-réalisateur des anticipations. Bon. Donc, ça constitue quand même une rupture un peu du paradigme intellectuel. Ensuite, évidemment, il y a eu après la guerre la synthèse néo-keynésienne qui n'a repris de Keynes que l'analyse de court terme en vérité, des déséquilibres de court terme, mais qui n'a pas repris ses intuitions plus profondes sur les esprits animaux des capitalistes, c'est-à-dire ses intuitions sur le caractère particulièrement profond des imperfections de marché et le caractère performateur, dit-on aujourd'hui, de la pensée économique elle-même. Voilà, donc selon moi, on est toujours dans, disons, le paysage intellectuel ouvert par cette prise en compte des imperfections de marché et des anticipations autoréalisatrices, auxquelles on peut associer le nom de Keynes et d'autres. Les évolutions récentes les plus significatives, à mon avis, ont été en fait dans deux dimensions. Au plan théorique, ça a été la liquidation complète de l'héritage keynésien, avec les modèles des nouveaux classiques, qui posent en fin de compte que toute politique économique est inefficace, parfaitement inefficace, parce que les agents anticipent. Et par conséquent, il n'y a rien d'autre à faire que le minimum pour l'État. Bon. Donc ça a été un courant assez fort qui s'est développé à partir des années, disons, 80. Et puis plus récemment, il y a un courant assez intéressant qui est la passion pour les données, la passion pour le traitement des données, l'économétrie. Dans bien des cas, quand on n'a pas les données, on les fabrique avec des expériences. C'est le type d'expérience de politique de développement à la Duflot Banerjee. Donc la passion des données, c'est le courant récent, au risque d'abandonner complètement la théorie. Maintenant, on voit des thèses d'économie où il n'y a plus aucune espèce de théorie économique. On essaye simplement de faire parler des données qu'on qualifie d'économiques. Alors ça, ça pose des questions extrêmement intéressantes qui sont que, d'abord, évidemment, on sait, tous les scientifiques savent, que les données, ce ne sont pas des faits bruts, les données sont construites. Donc que signifient les données économiques dont nous disposons aujourd'hui? On voit bien la controverse autour, par exemple, de la signification du PIB. On mesure quelque chose, là, mais quoi exactement? Et ça sert à quoi? Donc voilà, je dirais que l'évolution récente, la plus significative à mon avis de l'économie, c'est qu'elle est maintenant obligée de se confronter aux données et elle s'y prend de manière encore un peu balbutiante. Alors, l'augmentation des inégalités de revenus et aussi de patrimoine, qui en est largement la conséquence, préoccupe les économistes depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on a atteint un très étrange consensus qui est que de l'OCDE, le FMI, Madame Lagarde, aux candidats républicains et démocrates à la présidence des États-Unis en passant par le président chinois, tout le monde estime que les inégalités ont trop augmenté et qu'il faut les réduire parce que désormais, elles entravent la croissance. Bon. Mais derrière ce consensus de façade, il y a toujours des débats non tranchés sur l'origine même des inégalités. Très schématiquement, il y a trois grandes causes qui ont été identifiées. La globalisation elle-même, qui met en concurrence des emplois que moi j'appelle des emplois nomades, dans tous les territoires et qui donc crée une compétition extrêmement vive qui tente à réduire les salaires, tout en même temps que ça permet à certains d'avoir au contraire, avec des compétences très spécifiques, des salaires qui explosent parce qu'ils ont des compétences qui sont globalisées. Et puis il y a le progrès technique lui-même qui pour certains est exogène. On ne sait pas trop d'où il vient, mais enfin, il a pour effet, par exemple, de laminer les classes moyennes. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, les tâches qui sont robotisées sont des tâches de moyenne qualification et qu'au contraire, des tâches très manuelles, qu'on aurait qualifiées à tort de peu qualifiées auparavant, comme s'occuper des personnes âgées, elles ne sont pas robotisables. Donc, il y a une évolution des emplois qui viendrait du progrès technique lui-même. Et enfin, il y a la finance qui rajouterait une espèce d'instabilité générale qui aggraverait les mouvements précédents. Voilà. Voilà donc les trois grandes causes qui expliquent l'aggravation des inégalités. Mais remarquons d'abord qu'il s'agit là des inégalités à l'intérieur des territoires. Mais il ne faut quand même pas oublier que les inégalités entre territoires, le phénomène d'émergence des pays émergents, fait que les inégalités entre territoires se réduisent. Bon, donc en fait, la dynamique des inégalités engendrée en particulier par la localisation et la globalisation des firmes, y compris des firmes financières, cette évolution des inégalités est double. Il y a réduction des inégalités entre territoires, mais il y a aggravation des inégalités à l'intérieur des territoires, un peu partout. Les modèles classiques du commerce international ne permettent pas d'interpréter ça. C'est pourquoi on s'oriente vers de nouveaux cadres analytiques, en particulier distinguer les emplois nomades qui sont soumis à la compétition internationale et puis l'économie sédentaire qui n'est en compétition qu'avec elle-même à l'intérieur d'un territoire avec rapport singulier et intéressant entre nomades et sédentaires. Plus les nomades sont nombreux et riches, mieux c'est pour les sédentaires, mais plus les sédentaires sont pauvres, plus ils achètent des moyens de production et des biens à bon marché, et plus ils sont compétitifs par rapport aux autres nomades, etc. Bon. Il y a donc maintenant une nécessité d'aborder les questions d'inégalité avec de nouveaux cadres conceptuels.